Petite Lande et Marsan, Chalosse et Tursan.
MDM. MDM en FM, 101.1 dans le Marsan.
93.8 à Banos, Chalosse, Tursan.
MDM.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de radio MDM ce mardi 21 février 2023. Est un grand jour dans notre histoire puisque nous allons faire une grande première. Radio Cyclo 40, un magazine consacré à la petite reine avec le baptême aujourd'hui. Et c'est l'ami Armand à mes côtés qui a initié ce rendez-vous. Salut Armand.
Salut Jeannot.
Alors le vélo, pourquoi le vélo? Ben parce que ce qu'on va évoquer après.
Tout à fait.
Puis toi aussi, donc qui régulièrement, alternance des échasses donc, et de la petite reine.
Exactement.
C'est
tout
ça.
Tout à fait.
Bon, ben, merci beaucoup Armand d'avoir eu cette idée splendide de manger du sias. Et qui de mieux pour ouvrir ce rendez-vous que d'accueillir nos micros Bertrand Luc. Bonjour Bertrand.
Bonjour. Bonjour à tous.
Le tutoiement va être évidemment de rigueur tellement de nombreuses années.
De très longue date.
Ouais. Alors si vous avez le journal Sud-Est, la plume, si ça cause football, si ça cause chevaux, si ça cause course landaise et si ça course et si ça cause vélo, ben c'est souvent Bertrand qui est à l'œuvre. Une sorte, quand je parle de toi Bertrand, de bible vivante du cyclisme national.
Non.
Tu connaissais Bertrand Luc
Alors, pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Je me suis renseigné
T'as été voir.
Et j'ai vu que j'avais fait une belle erreur.
Désormais, vous allez vos routes vont s'accompagner.
Tu es pardonné.
Avec notamment, et ça va faire l'objet de ce rendez-vous, puisque forcément le 50e anniversaire de la victoire de Louis Ocagnard dans le Tour de France 1973, avec un ouvrage, Bertrand, qui va sortir le 15 juin prochain, à ta plume et aux éditions Passiflore, Louis Ocagnard, le Tour du Grand Pardon. Donc on va suivre cette aventure-là, puis bah, défricher, décortiquer tout ça. C'est évidemment pas le premier livret que tu écris autour de Louis Ocagnard et de toutes ses aventures, Bertrand.
Oui, non, j'avais écrit quelques ouvrages, déjà sur le Tour de France en particulier. Mon tout premier, c'était l'échappée gasconne, où je racontais un peu les passages du Tour de France dans le département des Landes, avec en particulier les départs et les arrivées, que ce soit Mont-de-Marsan, à Dax, à Seignos ou à Morsinx. Ensuite, le tout dernier que j'avais commis, c'était aux éditions Atlantica, il y a 3 ou 4 ans, je crois, c'était Coup de foudre dans l'Aubisque, où je racontais la folle chevauchée d'Eddy Merckx entre Luchon et Mourenx-Villeneuve, lorsqu'il avait attaqué au sommet du col du Tourmalet, juste pour passer en tête en haut du col, alors qu'il avait déjà le maillot jaune, que le Tour de France était gagné. Il n'avait donc aucun intérêt à faire une échappée au long cours. Mmh. Petite anecdote, il avait voulu passer en tête au sommet du Tourmalet devant son coéquipier Martin van den Bosch. Ils étaient dans la même équipe, dans l'équipe FAEMA, c'était en 1969. Pour la simple et bonne raison, c'est que le matin, Eddy Merckx avait appris que Martin van den Bosch, qui était son principal équipier, avait signé l'année suivante pour l'équipe Molteni sans le lui dire.
Ouais, d'accord.
Et Eddy Merckx en avait pris ombrage, et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas voulu que van den Bosch passe en tête au sommet du Tourmalet. Donc il s'était mis devant et il était passé avec 5 secondes d'avance, et ensuite, 5 secondes, ça s'est transformé très rapidement en minutes. Et moi, comme j'étais en vacances à la Reims à l'époque, j'avais vu passer Eddy Merckx ce jour-là à la Reims, tout seul, avec son maillot jaune et sa casquette verte. Et voilà, et j'en ai fait un ouvrage, parce que je pense que c'était l'un des plus grands exploits du Tour de France. Un exploit parce que c'est en plus un acte gratuit, ce qui est encore plus extraordinaire.
Quand tu parles d'acte gratuit, c'est le fait comme ça qu'il est
pour l'anecdote que tu viens de nous compter. Oui, parce qu'il aurait très bien pu se relever dans la vallée en bas du Tourmalet. Il avait une minute d'avance en bas d'Argelès-Gazost. Bon, il aurait pu s'arrêter, surtout qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et non, il a continué et son avance s'est accentuée. Et vraiment, c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour de France.
Et quand je te dis Armand, tu commences à le lancer.
Là,
il peut aller sur toutes ces anecdotes. La passion pour ce Tour, Bertrand, elle est née dans tes jeunes années, comme ça, en assistant à des étapes du côté des Pyrénées.
Oui, alors, le cyclisme, moi, je n'aime pas, parce que je trouve que le Tour de France, c'est très réducteur. C'est le cyclisme en général. Comme je disais Armand tout à l'heure, avant que nous commencions cette brillante émission, je lui disais, tiens, voilà, pour moi, la saison va commencer samedi avec le Het Nieuwe Bled, l'ancien Ed Volk, qui est la première semi-classique flandrienne, qui inaugure la saison en Belgique, et le lendemain avec Kurne-Bruxelles-Kurne. C'est là que tout commence. Mmh. Et parce que j'adore les classiques, comme j'adore les courses à étapes d'une semaine, de 15 jours, ou les grands tours, comme le Giro, le Tour de France, ou la Vuelta. Mmh. Donc, dire que oui, alors bien évidemment, le cyclisme, j'ai connu étant tout gamin, à travers le Tour de France. Et à travers le duel Anquetil-Poulidor. J'étais tout petit à l'époque, mais je me souviens très bien qu'il y avait des partisans de Poulidor, des partisans d'Anquetil. Et mon premier souvenir du Tour de France, je le dis souvent, d'ailleurs ça fait rigoler les gosses à la maison, parce que quand j'y passe encore sur le circuit automobile de Pau, je leur raconte, ils me disent « Oui papa, on sait, tu as vu Anquetil ?» Eh oui, en 1966, l'arrivée de l'étape Bayonne-Pau, mon père m'avait amené. Il y avait les tribunes à l'époque sur le circuit automobile, là, on était dans les tribunes. Et j'avais vu passer, donc, arriver Jacques Anquetil dans le peloton avec son maillot Ford, en train de défaire ses calepiers. C'est une image qui m'est restée. Et je dois dire que pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que bien évidemment, il n'y avait pas la télévision, hein, ou très peu de télévision. On avait la radio. Moi, j'ai beaucoup écouté le Tour de France à travers la radio. Et c'est pour ça que j'ai toujours été attiré, finalement, par le journalisme. Et puis, comme je dis, ça a été pour moi, mais certainement pour d'autres aussi, une ouverture sur le monde à travers la caravane publicitaire qui passait avant, les motards qui faisaient des acrobaties là, de chez Saint-Zano là, sur les motos avec leur combinaison bleu ciel. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Mais ça a été une véritable ouverture sur le monde, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Il y avait juste une demi-heure de reportage pour les arrivées en direct du Tour de France, et puis c'était tout. La victoire Luis Ocaña en 71, le reportage en tout, il fait trois quarts d'heure. On ne prenait pas, on ne faisait pas l'intégralité de l'étape. Alors maintenant, c'était une étape, le Grenoble hors Sierra Merlette en 71. Bon, l'étape, elle faisait 130 bornes. On aurait eu la télévision du début jusqu'à l'arrivée. Mais à l'époque, on prenait l'antenne à 10 km, 15 km de l'arrivée avec une seule moto et un malheureux hélicoptère.
Ça, voilà. Ça te cause rarement ces noms, là, ces Tour de France des années, Adi Merckx, Luis Ocaña, tout ça.
Fait, voilà, oui, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, c'est important pour comprendre le cyclisme de maintenant. Je pense qu'il faut.
Tout à fait, tu as tout à fait raison.
Il faut s'intéresser à ces époques-là qui sont très importantes. Quoi.
Et toi, comment t'y es venu alors, cet amour du cyclisme?
Moi, c'est tout bête. Avec mon grand-père, Tour de France 2017 ou 18, enfin celui où il y a l'attaque de Pinot dans le Tourmalet. Avec Alaphilippe.
Tu vas te sortir ça, Bertrand.
C'est 2019.
D'accord.
Voilà. Et cette attaque, elle est magnifique parce qu'on voit Pinot qui est, pour moi, c'est un peu Luis Ocaña, beaucoup moins, mais il a toujours de la malchance, Thibaut Pinot.
Ouais. Il devait gagner le Tour de France cette année.
Oui. Et suivi par Alaphilippe juste derrière avec son maillot jaune. Bon. C'est quelque chose qui, là aussi, bon, je l'ai vu qu'à la télé, mais ça marque, quoi. Mmh. Et donc, juste regarder comme ça, l'année suivante, on s'intéresse un peu plus. Et à partir vraiment de là, maintenant, là, je suis en plein dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit...
Allez, parti, c'est banco sur Radio MDM, parlons de la petite règle, ce magazine Radio Cyclo 40, qu'on aura le plaisir de retrouver. Alors, au moins jusqu'en juillet, mais peut-être que c'est une aventure qu'on débute aujourd'hui et qui ira au-delà de ces quelques mois.
Il faudrait qu'elle couvre la saison cycliste, nationale et internationale.
Et puis, quand tu parles vélo comme tu l'as fait, tu parlais radio aussi à l'époque où la radio était le seul média qui suivait ça. Il y avait une sorte de magie qui se dégageait de tout ça.
Oui, il y avait une magie. Moi, je me souviens, tout gamin, on me parlait de Georges Briquet. Voilà, tous ces gens-là. Alors, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que, bon, là, avec un avançant en âge, finalement, moi, à l'époque, j'entendais mon pauvre père ou même mes familles ou même des vieux à la campagne qui parlaient de René Vietto, qui parlaient d'André Leduc, qui parlaient de Bartali, de Coppi. Et puis bon, on était là, oui, alors c'était extraordinaire, bien évidemment. Pour eux, c'était la plus belle des époques. Et moi, en vieillissant, je m'aperçois que ben, je suis un peu comme eux. Au Cagna, pour moi, c'était la plus belle des époques. Bien évidemment, simplement parce que j'étais gosse, c'est tout.
Voilà. Parlons-en quand même alors de Louis Ocagna, forcément, parce que c'est cet événement, donc c'est le 7 juillet prochain que Mont-de-Marsan sera à Ville-Étape et l'occasion donc, de fêter le cinquantenaire. Donc c'était en 1973. Alors Louis Ocagna, le tour du Grand Pardon, c'est le titre de l'ouvrage qui sort le 15 juin prochain aux éditions Passiflore. Pourquoi le tour du Grand Pardon, Bertrand?
Alors, le tour du Grand Pardon, tout simplement parce que je considère que ce Tour de France, Louis Ocagna méritait de le gagner un jour. Mmh. Comme l'a dit Armand tout à l'heure, en faisant une analogie avec Thibaut Pinot, ce sont des coureurs qui sont frappés par la malchance. Et Louis Ocagna l'a été en particulier sur les différents Tours de France qu'il a courus. Et moi, je reste quand même, mais on en reparlera certainement le 15 juin, parce que je pense que c'est François qui va animer la soirée. Ça, c'est prévu.
Votre serviteur, voilà, pour servir.
Votre serviteur. Pour moi, c'est l'un des grands mystères. C'est qu'en 1969, Louis court son premier Tour de France dans l'équipe espagnole Fagor, marque d'électroménager. Voilà, bon. Et il était, j'ai regardé le classement, avant la première grosse étape de montagne, qui est l'étape du Ballon d'Alsace, où Merckx va prendre le maillot jaune, Louis, il est à 40-50 secondes du maillot jaune, qui était, à l'époque, je crois que c'était, je ne me souviens plus qui c'était Désiré Le Thor ou quelqu'un comme ça. Mais il est à 30 secondes d'Eddy Merckx. C'est-à-dire que la première partie du tour, il l'a faite dans les roues d'Eddy Merckx. Bon. Et là, il va malheureusement faire une chute terrible dans un petit col, la descente du col d'Ehrenberg, à quelques kilomètres donc, de la montée du Ballon d'Alsace, qui va être la première grande explication du Tour de France, à laquelle Louis ne va pas participer. Une chute spectaculaire, et des contusions multiples, il saignait partout. Bon, il a fini l'étape, et il a abandonné deux jours après dans les Alpes, au pas de l'échelle. Bon, mais c'est un grand mystère pour moi parce que je me demande ce qu'il aurait fait ce jour-là dans montée du Ballon d'Alsace et sur la suite du Tour de France. Est-ce qu'il aurait été capable de contrer Eddy Merckx à ce moment-là? Et ça, on ne saura jamais. Mmh. En 1970, il est malade, tombe malade dans les Alpes, mais il va quand même gagner l'étape ensuite à Saint-Gaudens au prix d'une magnifique échappée. En 1971, là, c'est la grande année de Louis Ocagna. Il attaque Merckx une première fois dans le Puy de Dôme. Il gagne l'étape, il prend une quinzaine de secondes, mais c'est une première alerte. Et puis, dans les Alpes, l'étape Saint-Étienne-Grenoble, deux ou trois jours après, là, il porte une grosse offensive dans la Chartreuse avec Bernard Thévenet, Gösta Pettersson et Joop Zoetemelk qui prend dans le maillot le soir. Thévenet gagne l'étape, Louis est à une seconde. Et le lendemain, dans l'étape Grenoble-Orcières-Merlette, 130 km, étape nerveuse, soleil de plomb. On attaque, à la sortie de Grenoble, il y avait la côte de la Frée. C'est une côte qui est un véritable petit col. Et là, ça attaque de toutes parts. D'entrée, c'est Agostinho qui lance les hostilités. Louis prend sa roue. Et puis, il y a Van Impe qui va le suivre avec Zoetemelk. Et dans la montée du col du Noyer, dès le début de la montée du col du Noyer, Louis Ocagna s'en va. Et là, il va remporter l'étape Orcières-Merlette, en haut d'Orcières-Merlette, avec plus de 9 minutes d'avance sur Eddy Merckx.
Eddy Merckx, à l'époque, est le cannibale. Quoi.
Ah, c'est le cannibale. Le peloton.
Intouchable ou presque
voilà,
à l'époque.
Le peloton l'a surnommé le cannibale, tout simplement, parce qu'il avait un appétit de victoire absolument incroyable. Il était excessif dans la victoire, Merckx. Mmh. Il voulait tout gagner. Alors, c'était la grande année de Louis. Il avait une avance considérable au général. Il était au pied des Pyrénées avec 7,30 d'avance sur Eddy Merckx. Et puis, il y a cette étape entre Revel et Luchon, cet orage dans le col de Menté. Et dans la descente, c'est la chute. En bas d'un virage, j'y suis allé encore il y a quelques mois pour voir. Bon, la route a été refaite et j'aimerais bien y revenir avant justement la présentation de l'ouvrage pour justement un peu décrire un peu les faits. Et Voilà. Et Louise va abandonner ce jour-là à... et il va être conduit donc à la clinique de Saint-Gaudens, chambre numéro 13, dans la clinique du docteur Bergès. Voilà. Là où deux ans plus tard, Raymond Poulidor sera conduit dans la même chambre, dans la même clinique, après sa chute dans la descente du col du Porté d'Aspé. Voilà. Donc, et c'était la grande année de Louis. Et Pierre Sescuti, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus des nôtres.
Ancien président du Stade Montois, c'est un petit peu le découvreur de Louis, hein, c'est lui qui l'a mené.
Que je salue, ouais. Bien évidemment, je salue dans sa mémoire, dans cet ouvrage, parce que Louis a été au Cagnat, parce que il avait fait cette rencontre providentielle avec Pierre Sescuti, qui était non seulement un chef d'entreprise, mais qui était aussi le patron du Stade Montois Cyclisme, le grand patron, mais aussi un conseiller, un ami. C'était un peu son second père. Voilà. Et je le saluerai. Et Pierre Sescuti m'avait dit, si Louis avait gagné le Tour en 71, il l'aurait gagné en 72, en 73.
Ah ouais. Ouais.
Parce que psychologiquement parlant, il aurait là marqué vraiment les esprits. Et même Eddy Merckx aurait été peut-être un peu plus sur la réserve, où son comportement en course aurait été un peu différent. Et ensuite, en 1972, Merckx au Cagnat se retrouve et Louis va chuter dans la descente du Soulor après une crevaison au moment où il était en train de revenir sur Merckx, dans l'état Bayonne-Pau. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais dans la montée de l'Aubisque, donc je les ai vus passer ensemble. Bon. Et là, il va attraper froid. Il va attraper froid parce que Louis était fragile des bronches. Bon, ça vient de son enfance qui a été vraiment très, très compliquée. C'était une enfance difficile.
Un petit côté misérable.
Sans tomber dans le cliché. Bon, et il va tomber malade, donc il est obligé d'abandonner dans les Alpes. Et en 73, il gagne le Tour. Mais Merckx n'est pas là. Et chaque fois, et c'est terrible, Louis va gagner un Tour de France à la Merckx, avec des écarts considérables. À la Merckx et à la Copie. Mais... malheureusement, chaque fois qu'on parle de ce Tour de France gagné par Roncagnat, on dit oui, mais...
Merckx n'était pas là.
Et ça, c'est terrible. Et Louis, d'ailleurs, l'a regretté. Avant le départ à Scheveningen, il disait, mais je ne peux pas croire que Merckx ne viendra pas sur le Tour de France. Alors, il n'était pas venu. Il faut dire qu'il avait, cette année-là, déjà attaqué la saison de façon assez féroce, puisqu'il avait remporté le Giro, la Vuelta. Et puis il avait remporté Liège-Bastogne-Liège, et voilà, et le Tour des Flandres. Donc bon, c'était quand même une grosse saison, il avait éprouvé le besoin de se reposer, mais bon, voilà. Et donc, sans en faire reproche à Louis, on dit, mais Merckx n'était pas là. Et même au Cagnat, je pense, a fait ce Tour de France, avec au-dessus de sa tête l'ombre d'Eddy Merckx, parce que je pense que le malheur de Louis... c'est qu'il avait une fascination, je l'écris, mortifère pour Eddy Merckx. Et je pense qu'il aurait dû se détacher un peu. Et ne pas se calquer sur Merckx. Il faut battre Merckx. Voilà. Mais c'était Louis.
C'était devenu obsessionnel.
Oui,
à ce moment-là.
À mon avis, c'était devenu obsessionnel.
Leur relation Bertrand, parce qu'il y a eu cette rivalité, alors, mais
leur rivalité était terrible. Mais... ce n'était pas simplement Merckx au Cagnat. Des rivalités, il y en avait. Dans toute l'histoire du cyclisme était marquée par de terribles rivalités. Anquetil-Poulidor, fallait voir les coups qu'Anquetil a fait à Poulidor sur des Paris-Nice, aux championnats du monde de Nürburgring en 66. Ils doivent être un des deux. Ils sont dans l'échappée avec Rudi Altig, l'Allemand. Et il n'y en a aucun des deux qui va vouloir se sacrifier pour l'autre.
Et c'est Altig qui va finir
par remporter ce championnat du monde qui était promis soit à Poulidor, soit à Anquetil, et Anquetil ne voudra même pas venir sur le podium. On en était là. Et après, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, puisque Anquetil disait, moi, ma petite fille, elle a dit poupou avant de dire papa. Et Louis Ocaña et Eddy Merckx, il y avait une rivalité qui était terrible. Et ensuite, ils sont devenus aussi très amis. Mais Coppi Bartali, les Pélissiers avec le Duc, tout ça, René Vietto, ils avaient des rivalités, ces gars-là. Et Bernard Hinault, c'était la même chose. Ils avaient des rivalités avec les Italiens, avec Saroni, avec Contini. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un cyclisme qui a beaucoup changé, un peu plus aseptisé.
C'est ce que j'allais dire, tu le trouves plus aseptisé, le
cyclisme? Oui, un peu plus aseptisé, c'est-à-dire que, bon, aux arrivées, on se serre la main, on s'embrasse presque, le vaincu qui vient embrasser le vainqueur. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. Mais ce que nous devons quand même à la jeune génération du cyclisme actuel, en particulier à Tadej Pogacar, c'est de ressusciter un peu, de convoquer ce cyclisme à l'ancienne, c'est-à-dire des garçons qui commencent à courir à la Ruta del Sol. On l'a vu, il a remporté 3 ou 4 étapes sur la Ruta del Sol. Ce qu'on ne voyait pas, un futur potentiel vainqueur du Tour de France, on ne le voyait pas gagner, se dépouiller sur des courses comme ça en début de saison. Et puis, il veut gagner également des classiques. Donc, on est revenu quand même à quelque chose de je dirais, qui va permettre un peu de solidifier, de conforter la légende des cycles.
Armand. Et pour revenir à ce que vous disiez, cette image-là qu'on a vue sur ce Tour de France avec Tadej Pogacar qui chute à côté de Vingegaard, et qui viennent se serrer la main. Ouais. Est-ce que vous la trouvez pas un peu fausse?
Ben écoutez, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est que à l'époque, lorsque un coureur comme Eddy Merckx crevait dans l'étape, par exemple Saint-Étienne-Grenoble, le malheur d'Eddy Merckx ce jour-là, c'est qu'il a le malheur de crever. Et sur la crevaison, les autres, ils n'ont pas attendu. Et quand en 72. Merckx, il n'attend pas Louis quand il crève dans la descente du Soulor. Non. Au contraire, bam, c'est un incident de course. Ça fait partie des aléas de la course. La chute, la crevaison, le problème technique, on ne s'attendait pas. Bon, maintenant, on est avec les oreillettes. Bon, on est dans le World Tour, c'est-à-dire que bon, vous avez une vingtaine d'équipes là, qui ont des très gros budgets. Bon, de temps en temps, je pense qu'à travers les oreillettes et tout, bon, voilà, directeur sportif entre eux, tu m'attends, bon, la prochaine fois, je te revaudrai ça. Bon, on le voit d'ailleurs, quand on suit un peu le vélo, bon, on voit vite, il y a des moments que, bon, on sent qu'il y a quand même, on a tendance quand même à s'attendre un peu, on a tendance à s'arranger un peu les choses, voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas la course, parce que la course, elle se fait, attention, il ne faut pas non plus, mais voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment... Et puis, les journaux entretenaient ça. La presse entretenait ça. C'était terrible. C'était des rivalités étaient nourries par la presse à travers des polémiques absolument terribles.
Luis Ocaña, le Tour du Grand Pardon. La sortie, ce sera le 15 juin. Alors, le mieux, ce sera de le lire, évidemment. Si tu nous dresses un petit tableau de cet ouvrage, Bertrand, donc tu plonges dans le cœur de ce Tour de France.
Oui, je plonge dans le cœur du Tour de France 1973, avec des flashbacks, bien sûr, sur 69, 70 et 71. Ouais. Voilà, pour expliquer un peu ce qui s'était passé les années précédentes, pour justifier justement le titre. Le Tour du Grand Pardon, j'aurais pu titrer d'ailleurs le Tour du Grand Pardon de l'histoire du cyclisme, parce que voilà, il y en a comme ça d'ailleurs, et des coureurs, je pense par exemple à Job Zoetemelk, parce qu'on dit Raymond Poulidor l'éternel second, mais Job Zoetemelk a fini maintes fois second du Tour de France. On l'a jamais appelé éternel second. Et en 1980, lorsque Bernard Hinault a dû abandonner à Pau à cause d'une douleur à un genou, c'est Zoetemelk qui veut remporter ce tour. Et personne n'a trouvé ça choquant, finalement, parce qu'il le méritait. Lui aussi, c'était un pardon de l'histoire.
Je souris parce qu'à l'époque, je l'imitais. Bah, quand j'avais essayé, dans une autre forme, c'est un Hollandais, il avait toujours cet accent. Et c'est vrai qu'Hino, il y en a fait de sacré sur Job Zoetemelk avec ce...
Oui, mais ce sont des coureurs, pardon, excuse-moi.
Oui, mais je t'en prie, Bertrand.
Ce sont des coureurs qui n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur des super champions. Poulidor, ça a été le cas. Il tombe sur un Quetil et après, il tombe sur Eddy Merckx. Bon, Job Zoetemelk, il tombe sur Eddy Merckx, après il tombe sur Bernard Hinault. C'est vraiment pas de chance, quand même.
Tu nous fais, Bertrand, Armand, parce qu'on va arriver, t'as vu comme ça passe vite dans le cyclisme. On va arriver presque au bout de ce rendez-vous, mais on pourra en faire des heures, mais il y a des petites idées qui traînent. C'est pas sûr qu'on t'en reparle pas, Bertrand. Dis-moi, il y a quoi à venir, alors, Armand, sur les semaines à venir.
Petit agenda, déjà, on va parler du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui a eu lieu semaine dernière. Il y avait trois étapes. Trois étapes. La première, c'était 197 km, c'était Saint-Raphaël-Cavalaire. Le lendemain, étape accidentée, mais un sprint toujours à l'arrivée, Mandelieu-Lannipoul, Antibes. Et puis un final en beauté entre Villefranche-sur-Mer et Vence. Et alors là, la victoire, c'est un petit Français qui a gagné, c'est Kevin Vauclair, qui est chez Arkea. Il a gagné en fait la première étape et après il lui a suffi de suivre tout simplement. Enfin tout simplement, c'est pas si facile. Quand on se met sur un vélo, bon, je pense qu'on peut pas suivre leur niveau. Donc quand je dis suivre, c'est un faible mot.
Vous avez compris l'idée, Armand.
Voilà. Et second, Aurélien Paré-Peintre de chez AG2R Citroën Team. À 7 secondes, il a gagné lui la troisième étape. Et ensuite on a Nelson Paoles de la EF Education.
Tu connais tout ça, Bertrand, aussi, hein?
C'est un très bon début de saison, par
oui,
puis c'est un Grand Prix la Marseillaise et étoile de Bessèges en suivant.
Et il a quand même fait deuxième de la première et de la deuxième étape.
Ouais,
donc il s'est bien classé. Le 25, donc samedi prochain, on a Net News Blad, Bertrand en parlait. C'est vraiment la première classique.
Qui ouvre la saison, hein,
c'est voilà. Ça. Les semi-classiques qui préparent autour des Flandres. Quoi,
voilà. Exactement, oui. Donc ça marque exactement le départ des classiques flandriennes. C'est comme les années précédentes, hein, c'est 204 km entre Gand de Ninove, entre Gand et Ninove. Il y a 13 monts, certains sont pavés, c'est ça la difficulté de l'histoire, on va dire. Et donc vous pouvez retrouver la course soit sur Eurosport 2, et soit sinon en direct écrit sur le site de West France qui met petit à petit les étapes.
D'accord.
Et ensuite, à un niveau un peu plus local, on va avoir à Uchac la course UFOLEP, organisée par le Vélo Club Mantois. C'est le début de la saison, ce sera la première course. Alors là, bon, ça passe pas sur Eurosport, hein, ni sur France 3, peut-être sur Radio MDM, on devrait faire ça.
Ouais,
on va passer sur Radio MDM. Et donc attention à la météo, qui sera un peu capricieuse, avec quelques averses tout au long de l'après-midi. Et après, bon, pour finir, on peut faire par exemple l'Estrade Bianche, début mars. Bon, là, par contre, ce serait un week-end chargé parce qu'on a l'Estrade Bianche, la course à Mayas au niveau UFOLEP et le Paris-Nice. Tout ça dans la même semaine.
Soleil.
Ça va faire beaucoup. On va rester, va falloir poser des congés là, je crois.
Parce qu'on aurait même pu. Puis là, on va arriver au bout. On aurait même pu aborder le cyclisme comme tu l'as fait du côté du Chag, le cyclisme local, toutes les courses qu'il y avait dans les fêtes environs. C'est aussi un chapitre que l'on pourra peut-être réouvrir, Bertrand. Ouais. Bon, vous avez vu comme ça file vite, Bertrand. Quand on a dit que ça a été à Hume des Caillaux d'entrée de jeu, on a mis l'euro braqué. Je vous rappelle le 15 juin prochain la sortie donc de Louis Soucagna, le Tour du Grand Pardon aux éditions Passiflore avec la plume Bertrand Luc, la petite couverture avec la famille aussi qui dessine, c'est le fiston, c'est Antonin qui a fait ça. On reparlera évidemment de tout ça, Bertrand, dès que possible. Et puis, comme tu as bien compris, tu es ici chez toi. Si tu veux revenir avec Armand pour la deuxième ou pour la suite, avec grand plaisir.
Si l'on m'invite, je reviendrai avec plaisir.
Merci beaucoup, Bertrand. On a fait déplacement depuis la Chalosse. Merci, Armand, pour cette grande première.
Merci à Jeannot, merci Bertrand.
On se fait un petit tour avec Jalabert en musique, pour mettre un petit peu. C'est les Vampas qui l'ont chanté parce que Didier Vampas, il adore le vélo, je crois aussi. Et puis un petit coucou à Jalabert. Oh, il y a Louis, il paraît qu'il avait chanté une chanson, qu'il y avait une chanson à son honneur. Ça te dit quelque chose, ça, Bertrand?
Non.
Non? Parce qu'on m'en a parlé, moi, de. Il paraît que ça existe.
Pierre Sescuti avait écrit une chanson.
Ah, d'accord.
Sur Louis Soucagna.
Eh bien, mais c'est peut-être ça qu'on ira piocher alors, quoi. Pour l'instant, c'est Jalabert. Merci, Nicolas Tanik. Merci beaucoup, Bertrand. Au revoir, Adichatz.
Adichatz.
Jalabert est devant le visage du maçon. Refuse.
tout un monde.